Répliquez-vous l'émission des ressources humaines sur Liberté FM. Mais je suis avec Christophe Rougeat, consultant. Bonjour Christophe.
Bonjour à tout le monde.
Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne tout le monde, la négociation salariale. Et on va vous expliquer comment passer de l'émotion à la stratégie avec méthode. Alors Christophe, pour commencer, est-ce que ça change vraiment quelque chose de négocier ?
Ah oui, effectivement, ça change, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Souvent, on sous-estime complètement l'impact que ça peut avoir. Je prends souvent un exemple en accompagnement. Un candidat que j'ai suivi avait accepté un poste sans négocier, 32 000 euros à l'année.
Okay.
En analysant le marché ensuite, il s'est rendu compte que le poste valait plutôt 38 à 40 000 à l'année.
Ah.
Sur 5 à 10 ans, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire en termes de manque à gagner. Avec les augmentations indexées sur salaire de base, il a perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc négocier, ce n'est pas un détail, c'est vraiment structurant.
Alors, mais pourquoi est-ce que les gens n'osent pas négocier ?
Parce qu'ils sont dans l'émotion. Quand on voit les candidats, notamment une personne que j'ai pu accompagner encore une fois, elle me disait « je ne veux pas paraître exigeante, je veux pouvoir décrocher le poste ».
Bien sûr.
Résultat, elle était prête à accepter immédiatement la première proposition, alors que l'entreprise est déjà convaincue par son profil.
Donc, aujourd'hui, on va leur donner des outils.
Effectivement, et surtout une méthode concrète, pardon, la méthode MESSOR, c'est exactement ce que j'utilise avec mes clients pour sortir de l'improvisation.
Très bien. Alors, quand quelqu'un arrive en négociation, qu'est-ce qui se passe concrètement ?
La personne est souvent en insécurité. J'ai en tête une personne qui avait 3 entretiens réussis. Donc clairement, elle était en position de force. Hein, elle était sur la ligne d'arrivée. Et pourtant, au moment de parler salaire, la personne a dit « je suis déjà très content de votre proposition ». Il s'est mis même retirer toute marge de négociation en sortant cette phrase-là. Parce qu'il a voulu passer crème sur le poste.
Et pourquoi alors justement on fait comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça ?
Parce qu'on veut sécuriser, le cerveau nous pousse à éviter le risque immédiat. On va arrêter de rentrer dans une négociation, même si ça nous pénalise sur de long terme.
On peut dire qu'on se sabote.
C'est exactement ça, et c'est là que la méthode est importante. Elle va permettre de remplacer l'émotionnel par une démarche structurée et factuelle.
Alors, on commence par le M de MESSOR, le marché. Pourquoi c'est indispensable ?
Parce que sans ça, on va négocier à l'aveugle. Il faut bien se renseigner sur ce qui se passe sur le marché de l'emploi en analysant l'ensemble des offres et en échangeant avec des recruteurs. On peut identifier que le marché est plutôt entre tant et tant d'euros par an, par exemple, sur telle profession. Et ça permet de changer son discours.
Alors concrètement, on fait comment ?
On ne se contente pas d'une seule source d'information. On va regarder des offres similaires qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet. On va échanger avec des professionnels, se renseigner dans le secteur, qu'est-ce qui se fait en termes de rémunération. On contacte les recruteurs et surtout on raisonne en fourchette et plus en chiffre unique.
Donc, première étape, c'est de se repositionner.
Effectivement, on ne négocie pas son ancien salaire, on négocie sa valeur marché. Ça fait toute la différence.
D'accord. Alors, deuxième étape, E comme évaluation, c'est là qu'on se situe dans la fourchette.
Oui, c'est souvent là que les gens se sous-estiment. J'ai accompagné un commercial, par exemple, qui faisait plus 20% au niveau de ses objectifs depuis 2 ans.
D'accord.
Et pourtant, il se positionnait en termes de rémunération en bas de la fourchette.
Ah oui.
Quand on a travaillé ensemble, on a objectivé ses résultats, le chiffre d'affaires qui est réalisé, la fidélisation, le taux de fidélisation de ses clients, le développement de son portefeuille clientèle. Oui. Et là, il a compris qu'il pouvait viser plus haut parce qu'il avait des arguments à mettre en avant.
Oui, mais donc il faut des preuves.
Et oui, effectivement, il faut des preuves,
des arguments
factuels avec des arguments qui vont faire mouche.
Oui.
Et donc, l'idée, c'est de pouvoir prouver qu'on a la compétence, que c'est la compétence qui va permettre de négocier son salaire. Et pas juste le fait de dire, j'ai besoin de tant d'euros par mois parce que j'ai mes factures à payer. Non, ça, l'employeur, il s'en fiche.
Alors, la troisième étape de ce MESSOR, c'est le S, donc comme stratégie. Ça veut dire quoi, concrètement ?
Alors là, en fait, ça va de préparer son plan. J'ai une personne, par exemple, que j'ai accompagnée qui voulait absolument 42 000 euros. On a travaillé sur une stratégie un peu plus large, un objectif à 42 000 euros avec un seuil minimum à 39. Donc, il savait qu'il ne voulait pas descendre en dessous. Et des leviers alternatifs. Donc, dans son cas, il a finalement obtenu 40K, plus 2 jours de télétravail, plus une prime annuelle. Et au final, il était gagnant sur le global.
Bon, formidable. Et donc, il ne faut pas être rigide.
Exactement. Les meilleurs négociateurs sont flexibles sur les moyens, mais clairs sur leurs objectifs. D'où l'intérêt de travailler sa stratégie au départ.
Alors, avant de voir ce que signifie le O, on va écouter un morceau qui est tout à fait adapté.
Money, money, money.
C'est parti.
I
Vous écoutez bien, répliquez-vous sur Liberté FM. Aujourd'hui, nous parlons de négociation de salaire. Et Christophe, tu as une méthode à nous proposer, la méthode Mazur. Nous avons vu dans une première partie ce que signifient les trois premières lettres, le marché. Il faut connaître le marché du travail. Le E pour évaluation, il faut savoir s'évaluer correctement. Le S est la stratégie à établir. Nous voyons maintenant le O comme ouverture.
Effectivement, et là c'est un moment clé parce que c'est là que tu vas poser le cadre de toute la négociation avec le recruteur. Mmh. J'accompagnais notamment une candidate qui commençait toujours par « désolé de poser la question ». Rien que cette phrase la mettait en position basse,
ah oui.
comme si elle dérangeait. Résultat, ah oui. Elle se dévalorisait et avant oui. même d'avoir commencé à négocier. Mmh. Donc, on a travaillé quelque chose de très simple mais très puissant, sa posture et ses mots. Elle est passée d'une phrase du type « je suis très intéressé par le poste, mmh. j'aimerais qu'on échange sur la rémunération pour s'aligner avec le marché et mon expérience ». Là, elle n'est plus en train de quémander une faveur, elle est en train de construire un échange qui soit professionnel, et concrètement, ça change la réaction en face.
Oui, donc la posture compte tout autant que le fond.
Exactement, même parfois plus au départ. Une négociation, c'est d'abord une question de perception. Mm-hmm. Si tu arrives en t'excusant, bah, tu envoies le message oui. que ta demande est oui. légitime.
Bien
à
sûr.
L'inverse, si tu es posé, clair et aligné, tu montres que tu es un professionnel qui connaît sa valeur.
Mm-hmm. Et nous passons à la lettre R comme réponse. Christophe, qu'est-ce qu'on fait quand l'entreprise dit non ?
Eh bien, quand l'entreprise dit non, ça peut arriver, effectivement.
Ouais.
C'est aussi normal, hein, l'entreprise a le droit d'exprimer si c'est besoin. J'ai un client qui on a dit, par exemple, on ne pourra pas aller au-delà de 38 kilos.
Mmh.
Et au lieu d'accepter ou de bloquer, il a répondu « je comprends ». Et qu'est-ce qui serait possible pour se rapprocher de ma fourchette ?
Oui.
Donc là, c'est de rentrer encore une fois dans de la négociation et de voir jusqu'où l'employeur est prêt à aller.
Oui, et ça a donné quoi, concrètement ?
Là, qu'ils ont proposé une prime garantie la première année.
D'accord.
Plus une clause de révision de salariale à 6 mois. Mmh. Parce que l'entreprise, en fait, a dit « Ok, on voudrait bien aller jusque là où vous voulez aller, mais avant, on a besoin de tester.
Oui. »
Donc, ça a été marqué noir sur blanc et c'est un deal qui a été mis en place entre l'employeur et le collaborateur.
Très bien. Donc, il faut toujours rester dans l'échange.
Oui, parce qu'on peut transformer un refus, au final, en une opportunité. Et une négociation, ce n'est pas qu'un bras de fer, c'est aussi de la communication.
Très bien, alors la dernière lettre de ce Mazur, c'est E comme engagement. Pourquoi est-ce la clé ?
Parce que beaucoup de frustrations viennent d'accords flous. J'accompagnais un candidat qui pensait avoir une évolution rapide, mais rien n'était écrit comme le précédent dont je vous ai parlé.
D'accord.
Donc il faut que les choses soient vraiment factualisées. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc à partir du moment où la négociation a été validée, il faut que ce soit marqué quelque part.
Et aujourd'hui ?
J'insiste toujours en accompagnement sur le fait de bien valider le salaire, de bien valider le variable, mais aussi les perspectives d'évolution éventuelle. Et par exemple, à quelles conditions une revalorisation est envisageable dans 6 mois et que ce soit noté quelque part.
Dans le contrat, par exemple ou...
Bien sûr, ça peut être noté dans le contrat et ça peut être aussi noté sur la proposition d'embauche. Il y en a une qui est établie avant l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise.
Très bien. Et donc, c'est qu'on sécurise l'avenir.
Bah, effectivement, une bonne négociation, ça ne s'arrête pas uniquement à la signature. Donc,
Alors, il faut qu'on parle quand même des erreurs qu'on peut commettre dans cette négociation. Quelles sont celles que tu vois le plus souvent ?
Bah, la pire, c'est d'accepter trop vite des personnes qui vont rapidement dire oui en 10 secondes et qui vont le lendemain s'interroger sur le pourquoi du comment elles ont dit oui et qui vont s'apercevoir que, avec regret que ça ne correspond pas à leurs attentes réelles.
Il y a certainement d'autres erreurs.
Éventuellement, parler de ses besoins personnels, j'ai un crédit, j'ai des charges, l'entreprise ne va pas acheter votre situation, elle va valoriser votre contribution. Donc c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant.
Et alors, côté posture ?
Bah, trop agressif ou à l'inverse, trop passif. On est encore une fois dans un axe de dans une posture de négociation, ce qui veut dire qu'on est prêt, nous, à aller jusqu'à un certain point et à ne pas descendre en dessous d'un autre point. Et l'entreprise, c'est pareil, donc il faut trouver le point de concordance. Et c'est une histoire de communication et d'échange.
Très bien. Alors, si tu devais résumer la méthode Mésor,
C'est passer d'une négociation subie à une négociation qui est bien préparée. On ne demande pas, on démontre, on valorise, on explique pourquoi on est légitime de faire cette demande et ça passe beaucoup mieux.
Un dernier conseil ?
Ne laissez pas le salaire être décidé par défaut. Prenez le temps de vous préparer, de structurer, d'oser et puis d'utiliser la méthode Mésor.
Très bien, alors si vous voulez tout connaître en détail, il ne vous reste plus qu'à décrocher le téléphone ou d'écrire un email à réplique pour connaître toutes les subtilités de la négociation salariale. Alors Christophe, on va peut-être rappeler les coordonnées.
Bien sûr, par téléphone, on peut joindre réplique au 05 64 13 98 00, par mail à contact@replique.com. Et par internet www.replique.com, également les réseaux sociaux.
Parfait, merci beaucoup Christophe.
Merci Christian, merci à toutes et à tous.
À très bientôt.
À bientôt et bon week-end.